Nous voulons, avant la prière, lire un psaume merveilleux, le psaume 33, à partir du verset 4. Car la parole de l'Éternel est droite. En allemand, est véritable. Est véritable. Et toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. Il aime la justice et la droiture. La bonté de l'Éternel remplit la terre. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Il amoncelle en un tas les eaux de la mer. Il met dans des réservoirs les abîmes. Que toute la terre craigne l'Éternel. Que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Car il dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Jusqu'ici, cette parole. Nous avons une requête particulière qui est exprimée ici, que nous allons apporter au Seigneur pour notre bien-aimée sœur Rouchke, qui a déjà un âge très avancé, et aussi des salutations aussi fraternelles de la bien-aimée famille Herbert Keller, qui sont au Canada. J'ai leur salutation à remettre à notre frère Herensberger, à apporter ses salutations de son gendre Herbert Keller. Et je voudrais maintenant ici les avoir rendus. Et je demande de nouveau de les saluer aussi. Levons-nous pour la prière. Père céleste, nous regardons à toi, nous levons nos têtes vers toi. Nous levons nos yeux. Nous te remercions pour ta sainte et précieuse parole. Que jusqu'à cette heure, tu nous as conservés. Et que d'une telle manière merveilleuse, tu nous as révélés. Dieu Tout-Puissant, qui sommes-nous pour pouvoir avoir la grâce de parler avec toi et de nous approcher de toi? Nous le faisons parce que nous croyons que Jésus-Christ, notre Seigneur, sur la croix à Golgotha, a pris sur lui la colère de Dieu, a porté nos fautes, a expié nos péchés et nous a réconciliés avec Dieu. Et en tant que réconciliés, nous venons maintenant à toi. Et te demandons, parle aujourd'hui avec nous et agis par ta parole et par ton esprit d'une manière très particulière. Seigneur, accorde ta grâce pour que nous ne regardions pas à ce que les hommes ou bien l'ennemi fait, mais regardions à toi et l'œuvre de tes mains parmi nous et dans notre vie, que nous puissions la voir et te remercier pour cela de tout notre cœur. Sauveur fidèle, nous remettons cette réunion consciemment sous le couvercle de ton sang et te demandons la conduite directe de ton Saint-Esprit. Seigneur fidèle, regarde ton peuple dans ta grâce et bénis, Seigneur, ton héritage. Conduis-le sur le droit chemin pour que l'ennemi ne le détruise pas. Seigneur, nous te demandons, fortifie-nous aujourd'hui dans la foi. Sauve celui qui n'est pas encore sauvé. Guéris. Délivre du malin. Délivre. Sauve que ton évangile, nouvellement, soit une puissance de Dieu. Oh Seigneur notre Dieu, accepte la louange, la gloire, l'adoration et l'adoration d'éternité en éternité dans le Saint-Nom de Jésus. Amen. Amen. Nous nous asseyons. Je voudrais qu'en première chose, remettre beaucoup de salutations fraternelles de tous nos frères et sœurs de l'Inde. J'ai été presque 3 semaines en Inde et j'ai traversé tout le pays et je crois qu'en tout, j'ai entrepris 6000 kilomètres par avion, en voiture et tel que c'était. Beaucoup vous remettent des salutations très fraternelles. Et particulièrement le frère Arthur Davis, qui déjà une fois, il y a plusieurs années, était ici, en cet endroit, et avait rendu un témoignage, un bref témoignage. Il a demandé spécialement que je puisse saluer tous à Zurich. Très cordialement, de tous, vous saluer de tous les frères et sœurs de l'Inde. Nous voulons maintenant observer quelques écritures, des Saintes Écritures, paroles des Saintes Écritures. Et c'est pour moi, peut-être que je devrais encore nommer cet exemple. C'était dans la ville Matrat, alors que le pasteur de cette église dénominationnelle écoutait mon exposé et est venu à moi après et m'a demandé est-ce que je pourrais le prochain jour avoir du temps pour un entretien. Je lui ai dit, mais volontiers. Il avait 2 questions qu'il avait liées à sa personne. Avec quel droit prétendez-vous que frère Branham est le prophète, est le dernier prophète envoyé de Dieu avant le retour du Seigneur? Ça a été la première question. Et la deuxième question, qui en fait appartenait à la première, était: si c'est ainsi, pourquoi est-ce que toutes les églises dénominationnelles n'ont pas reconnu son ministère? Et vous pouvez bien vous imaginer que deux de telles questions sont pour moi des questions très précieuses, ces 2 questions. Les questions n'auraient pas pu être mieux formulées que ça. Et tel que Dieu réellement toujours m'aide, c'est ainsi que cela a eu lieu aussi cette fois-ci. J'ai dit, bien-aimé ami, ce n'est pas moi qui vais répondre, mais je vais laisser Dieu vous répondre en ne disant rien du tout, mais en lisant seulement les versets bibliques qui rendent témoignage de ça. Et qu'est-ce que je dois vous dire? J'avais lu tout un nombre de versets bibliques et l'homme a sauté, s'est levé. Il m'a saisi la main par la table, au-dessus de la table, et m'a dit, Dieu m'a répondu, j'ai maintenant reconnu au travers des Écritures. Et il m'a dit, le frère tel et tel ici était ici, le frère tel et tel était ici. Et ils ont seulement dit, oui, le prophète dit, le prophète dit, le prophète, le prophète, le prophète, le prophète. J'ai dit, tu es le premier qui a pris la Bible et qui a laissé Dieu me parler par sa parole. Il est venu de la table vers moi et m'a dit, dès maintenant, cette église est ton église, est ton église. À chaque fois que tu viens en Inde, tu peux prêcher ici la parole de Dieu. Il m'a même demandé, à cause du baptême d'eau, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mes bien-aimés, Dieu est fidèle. Nous n'avons pas besoin de nous inquiéter. Si c'est lui qui nous envoie, il met dans notre bouche les paroles que nous devons lire dans sa parole. Il les met dans notre cœur. Il nous donne les Écritures. Et alors c'est lui-même qui parle du cœur au cœur par sa parole et par son esprit. Cela, donc la parole prophétique, bien sûr, dans ces jours, pour moi, est devenue nouvelle dans mon cœur, a inondé mon cœur, parce que c'est l'orientation divine, la parole prophétique. Et des gens qui, dans ce temps, n'ont pas la partie prophétique de l'histoire du salut, ne la voient pas et ne l'ont pas reçu révélé, ne peuvent pas avoir d'orientation, qu'ils puissent parler de tous les sujets, écrire même sur tous les sujets sur lesquels ils voudraient écrire, ou bien exposer, ou bien parler d'Israël, de la Russie, de la pluie et d'être mouillé, de toutes sortes de sujets, tout ce qui appartient à ces choses. Mais seulement celui qui réellement, par la grâce de Dieu, et je veux dire maintenant, avec tout le sérieux, jusqu'à la dernière conséquence, celui qui ne reconnaît pas pour ce dernier âge prophétique le mandat du prophète envoyé par Dieu, oui, pour ce dernier âge prophétique, celui qui ne reconnaît pas ce messager, ce mandat, il a déraillé dans sa prétendue habileté. La parole de Dieu prophétique est une lumière qui brille dans un lieu obscur. C'est ainsi que Pierre, autrefois déjà, l'a écrit. Et c'est ainsi que c'est aujourd'hui encore. Celui qui marche avec Dieu, il ne peut pas passer à côté de sa parole et de ses promesses. Ce n'est pas possible. Plusieurs écritures, je les ai remarquées, je voudrais les lire aujourd'hui, ont attiré mon attention. Vous recevez assez de prédications de Frère Branham, vous les recevez par moi, envoyées par la poste, et vous pouvez vous approfondir aussi dans ces choses. Dans le prophète Ésaïe, le chapitre 11, à partir du verset 11. Dans ce même temps, le Seigneur, dans ce même temps, cela aura lieu, que le Seigneur étendra une seconde fois sa main pour racheter le reste de son peuple. Jusqu'ici, ce verset. Cette expression une seconde fois dans ce même temps. Et vous savez qu'il y a eu la première venue du Seigneur et il y a la deuxième venue du Seigneur. Il y a eu l'appel à sortir d'Israël, de l'Égypte, avec main puissante élevée. Et à la fin des jours, Dieu étend sa main pour ramener son peuple des différentes nations parce que le temps est arrivé pour cela. Au chapitre 13, il est écrit concernant le jour du Seigneur. Je voudrais de l'Ancien et du Nouveau Testament, vous montrer la liaison. Ésaïe 13, verset 2. Sur une montagne nue, dressez une bannière. Élevez la voix vers eux. Faites des signes avec la main afin qu'ils franchissent les portes des tyrans. J'ai donné des ordres à ma sainte armée. J'ai appelé les héros de ma colère. Ceux qui se réjouissent de ma grandeur. On entend une rumeur sur les montagnes comme celle d'un peuple nombreux. On entend un tumulte de royaumes, de nations rassemblées. L'Éternel des armées passe en revue l'armée qui va combattre. Ils viennent d'un pays lointain, de l'extrémité des cieux. L'Éternel et les instruments de sa colère vont détruire toute la contrée, en allemand, toute la terre. Gémissez car le jour de l'Éternel est proche. Il vient comme un ravage du Tout-Puissant. C'est pourquoi toutes les mains s'affaiblissent et tout cœur d'homme est abattu. Ils sont frappés d'épouvante. Les spasmes et les douleurs les saisissent. Ils se tordent comme une femme en travail. Ils se regardent les uns les autres avec stupeur. Leurs visages sont enflammés. Nous vivons dans un temps dans lequel nous pouvons nous attendre et nous devons nous attendre à ce que les dernières choses desquelles il est écrit s'accomplissent, vont s'accomplir. Et si nous, et ça nous devons le faire, si nous observons le climat politique et ce qui se passe, nous remarquons que tout travaille vers ce but unique. Et je voudrais que nous puissions voir les trois choses que Frère Branham, de manière prophétique, a placées au milieu, au centre, que nous puissions les recevoir dans notre cœur. Il y a trois choses qui vont se passer et Dieu s'est gardé l'ordre de leur accomplissement. Il y a une chose, ça c'est Israël, ce sera toujours, mais cela arrivera complètement à la fin, car c'est là-bas que cette grande armée vivra sa plus grande défaite et trouvera sa fin. Tout. Sinon, tout ce qui va devoir arriver et tout ce qui va venir auparavant, va venir avant. Car là-bas, ce sera la fin. Ça, on peut le lire dans le prophète Ézéchiel aussi, du chapitre 36 au chapitre 38, dans le prophète Joël 2 et 3, et dans d'autres nombreuses écritures. Mais il est aussi parlé du Vatican, là, et aussi de la destruction des États-Unis. Et si nous parlons de ces choses, alors ce n'est pas parce qu'elles nous plaisent, elles nous amusent, ce n'est pas parce que nous voulons que cela arrive ainsi. Mais c'est parce que nous respectons Dieu dans ses décisions et croyons que tout ce qui se passe se passera avec justice, avec droit, avec raison, et que Dieu n'aura pas besoin de s'excuser auprès de qui que ce soit. Nous voyons que les choses maintenant sont en train d'aller vers cela, purement à caractère politique, que le Vatican est attiré dans ces choses et que justement cette paix qui est menacée d'échouer et qui n'était même pas là et qui ne sera jamais là, qui sera qu'une paix d'apparence, pour un moment, que des choses maintenant sont en train de se faire pour introduire la phase finale. Les politiciens ont perdu la confiance l'un à l'autre. Ils ont besoin d'une personne neutre à laquelle, comme ils le pensent, ils pourront avoir confiance. Mais cela aussi un jour va changer, car d'après Frère Branham, une bombe tombera sur le Vatican. Vous pouvez le lire dans Apocalypse chapitre 18. C'est écrit trois fois, l'un après l'autre, qu'en une seule heure, l'une après l'autre, cette grande ville est détruite, sera détruite. Ici, il s'agit pour moi de cette expression que Paul, dans 1 Thessaloniciens, au chapitre 5, au verset 3, saisit. Ici, dans Isaïe 13, verset 6, « Gémissez car le jour de l'Éternel est proche. Il vient comme un ravage du Tout-Puissant. » 1 Thessaloniciens 5, verset 2, Paul le mentionne. C'est pourquoi toutes les mains s'affaiblissent et tout cœur d'homme est abattu. Ils sont frappés d'épouvante. Les spasmes et les douleurs les saisissent. Ils se tordent comme une femme en travail. Ils se regardent les uns les autres avec stupeur. Lisez avec moi dans le Nouveau Testament, dans 1 Thessaloniciens. Ici, il est parlé aussi d'une femme qui est en travail. Vous allez voir comment est-ce que les prophètes et les apôtres, par le même Saint-Esprit, ont écrit et ont parlé. Ici, il est dit, dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, à partir du verset 2, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit, quand les hommes diront paix, verset 3, et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. N'avons-nous pas lu la même chose dans le prophète Ésaïe, au verset 8 du chapitre 13, du verset 6 au verset 8? Ici, Paul n'a pas cessé, mais il écrit au verset 4. Mais vous, frères, vous ne vivez pas dans les ténèbres pour ne pas que ce jour vous surprenne comme un voleur. Même si le monde entier, tous les habitants de la terre, seront surpris comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme, il y a des hommes sur terre qui, eux, ne seront pas surpris. Car Paul écrit ici, « Mais vous, frères, ne vivez pas dans les ténèbres, afin que ce jour ne vous surprenne comme un voleur. » Et ici, il est parlé du jour du Seigneur. Et maintenant, nous venons au centre, au noyau de l'envoi du dernier prophète. Dans les derniers versets du dernier prophète, dans le Saint-Testament, il est écrit, « Je vous envoie le prophète Élie avant que le jour terrible et redoutable de l'Éternel vienne. » Pourquoi est-ce que nous ne sommes pas dans les ténèbres en ce qui concerne ces choses. Parce que, est-ce que c'est parce que nous sommes mieux que les autres? Non. Mais parce que Dieu nous a donné la possibilité de prendre au sérieux sa parole et de prêter l'oreille à sa voix dans ces jours et de recevoir dans nos cœurs ce qu'il a à nous dire. En ce jour que le Seigneur s'est gardé d'exécuter son jugement, beaucoup d'hommes pieux et de réunions pieuses et de communautés pieuses vont vivre la plus grande surprise de leur vie. On ne peut pas passer à côté de Dieu et de sa parole et penser aboutir chez lui et dire « Alléluia, je suis ici. Est-ce que tu ne te réjouis pas de me voir, bien-aimé Sauveur, que je sois venu ?» Non, non, non. Avec Dieu, ce n'est pas comme ça. Dieu envoie sa parole et il exige des hommes qui veulent subsister devant lui qu'ils puissent le respecter, lui et sa parole. Qu'ils puissent accepter ce qu'il a envoyé et ce qu'il a laissé annoncer et croire ce qu'il a à leur dire. Celui qui ne peut pas le faire, alors, il lui manque la première chose, c'est-à-dire la crainte de Dieu. Et la crainte de Dieu est au commencement de la sagesse divine. Est le commencement. Où est la sagesse divine? Où reste la sagesse divine? Si la crainte de Dieu n'existe même pas dans nos cœurs, comment est-ce que nous voulons recevoir la sagesse de Dieu, la sagesse qui vient d'en haut? Que Dieu puisse nous accorder d'abord cette crainte dans notre cœur, et cela chaque jour de notre vie, qu'arrive, quoi qu'il arrive. Dans le prophète Joël, au chapitre 3, ces paroles connues sont écrites que Pierre, dans Actes des Apôtres 2, verset 17, a prononcé. En français, c'est le chapitre 2, verset 28. Après cela, je répandrai en allemand. Et après cela, cela arrivera que je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des révélations en songe et vos jeunes gens des visions. Et aussi sur les serviteurs et les servantes. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répondrai de mon esprit. Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de feu, de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et terrible. Alors quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Alors quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Le salut sera sur la montagne de Sion et à Jérusalem, comme l'Éternel l'a promis en allemand, et parmi les réchappés que l'Éternel appellera. Dieu a accordé un salut et tous ceux qui de tout leur cœur croient à ce salut, pas avec leur pensée humaine, trier les choses à croire ou à ne pas croire, mais à croire toute la parole de Dieu, le salut de Dieu. Et nous avons souvent parlé de ça. Abraham, et cela de tout leur cœur, Abraham, extérieurement avec ses pensées, a pu percepter que son corps et le corps de Sarah étaient morts dans leur fonction. Mais il ne s'est pas laissé égarer par ce que ses sens terrestrement pouvaient percepter. Il ne s'est pas laissé égarer par l'incrédulité, mais ce qui était dans son cœur, c'est-à-dire dans la parole de Dieu, de la promesse, il l'a cru et il a fait confiance au Seigneur. Il a estimé capable d'accomplir ce qu'il a promis malgré les choses terrestres et visibles qui étaient perceptibles pour lui. La même chose est valable pour nous tous. Si nous voulions regarder à ce qui se passe autour de nous extérieurement, alors on voudrait attraper notre tête avec nos mains et dire, Seigneur, que tu puisses continuer avec qui tu veux d'autre. Mais parce que nous croyons à la parole divine de la promesse, et ça, dans les jours qui arrivent et les mois qui arrivent, et si ce sont des années que le Seigneur nous accorde encore, nous allons continuer à insister là-dessus. La parole de la promesse divine est l'alpha et l'oméga, est le A et le O, et l'alpha et l'oméga pour ce que Dieu fait dans la vie d'un homme, pour ce que Dieu peut faire dans la vie d'un homme pour l'éternité. Nous avons assez insisté qu'une semence pour une naissance est nécessaire. Et nous allons peut-être aussi écrire là-dessus, ce serait mieux, parce qu'on ne peut pas comme ça assez entièrement le traiter dans toute son entièreté. Qu'est-ce qui s'est passé avant que Christ, la parole, devienne chair? C'était une vierge et elle disait, je sais, je ne connais aucun homme. Pensez-vous que c'est seulement écrit comme ça, ainsi simplement, dans Matthieu 25, alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges. À la fin des jours, à la fin du temps de la grâce, Dieu aura des hommes qui spirituellement ont un cœur vierge et qui ne commettent aucune prostitution, fornication spirituelle et naîtront de la semence pure, incorruptible de la parole de Dieu. Et cette semence de la parole, ils la reçoivent dans le cœur vierge de leur, dans leur cœur vierge. Quand cela s'est passé avec Marie, ce n'était pas encore la fin. Ce n'était pas encore tout. La parole de la promesse s'est adressée à elle, est venue à elle. C'est ensuite, c'est après, ce n'était pas tout. L'Esprit de Dieu ensuite vint sur elle et a reproduit la parole qui avait été placée, reçue en elle. Et c'est de ça qu'il s'agit maintenant dans ces jours. Pas de discussion sur des déclarations de Frère Branham, mais il s'agit du noyau du message divin et des promesses de sa parole pour ces jours qui doivent être crus et reçus dans la foi par le peuple de Dieu. Chacun peut s'asseoir avec quelque part avec quelqu'un d'autre et discuter et dire certaines choses, plusieurs choses, ou bien alors avoir beaucoup de choses à dire, ou bien à rejeter, ou bien à accepter. Mais par cela, rien ne se passe. Par des entretiens. Tel qu'avec Christ, notre Sauveur s'était. C'est comme ça, pour sa naissance, c'est comme ça que cela doit avoir lieu avec tous les rachetés. Conduit à sortir, purifié et mis à part, séparé de tout ce qui n'est pas en accord avec Dieu et la parole de Dieu, pour que un champ nouveau puisse être défriché, pour que la semence incorporée de la parole de Dieu puisse être semée dans un cœur préparé. La meilleure semence, le blé le plus précieux, cher, ne sert à rien s'il reste comme ça quelque part, posé, sans être semé. Et seulement de semer comme ça, comme on veut, sur des chemins, sur des épines, une terre qui n'est même pas défrichée, retournée, rien du tout. Mais cela ne produira aucun fruit. Le fruit à 100% comme cela est attendu de la semence. Mais au moment du retour du Seigneur Jésus-Christ, il est dit que le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges. Avec cela, il s'agit des croyants, des vrais croyants dans ces jours. Cela veut parler des vrais croyants dans ces jours. Ils ne sont pas touchés. Ils ne connaissent pas d'homme. Ils ne sont pas touchés. Ils sont restés gardés pour Dieu et pour recevoir sa sainte parole. Et pour, en ce qui concerne cela aussi, nous avons parlé concernant ces choses que tous, nous venons de différentes dénominations où une annonce, une prédication mélangée, un ensemencement mélangé a produit une récolte mélangée. Mais maintenant, cette époque est passée et est finie pour nous. Et Dieu veut que la pure semence de sa parole soit semée, rien d'autre. Et si, là, nous devenons un peu, nous manquons, nous restons là un peu sans tolérance. Et nous le faisons à cause du Seigneur. Il n'y a pas d'enseignement, d'opinion ou bien de credo qui ont de la place, qui sont étrangers à la parole de Dieu. Là où la parole de Dieu a été placée sur le chandelier, ça devrait être clair pour tous que toutes les interprétations humaine et les credos humains, les enseignements, les commandements d'hommes n'ont plus de place dans notre. N'ont plus de place. C'était comme ça, je parlais avec quelqu'un et il était de cette opinion que chaque croyant qui meurt ne reste pas dans le cercueil, mais qu'en 3 jours, il est enlevé. Cela n'est ni vrai et n'est pas écrit dans cette écriture. Et je savais dans mon cœur. Si des gens portent dans leur cœur un tel enseignement qui n'est pas biblique, comment est-ce que Dieu va permettre que sa parole dans un tel cœur soit mélangée à de telles interprétations et façons de voir les choses? C'est impossible. Et heureusement que j'étais présent à l'enterrement de Frère Branham, qui a été enseveli beaucoup plus tard que prévu. Et j'étais directement près du cercueil. Donc, juste pour dire que cette théorie est fausse et pour vous montrer clairement que toutes ces centaines d'enseignements que les gens ont conservés comme étant précieux, comme s'ils penseraient que leur salut en dépend. Laissez-moi, dans l'amour, vous le dire. Si vous voulez appartenir à ceux qui, dans ces derniers jours, en tant que des vierges établies par Dieu, accordées de Dieu, donc abandonnez, laissez tomber tout ce qui n'est pas en accord, vraiment en accord, avec ce que Dieu a déterminé pour ce temps, dans ce temps, et à révéler de sa parole les Saintes Écritures. Sinon, vous allez tomber vous-même en chemin. Il y en a qui pensaient que, oh, ceux qui pensaient qu'ils peuvent de cette chose, de cette autre chose, en conserver encore beaucoup de choses qui sont bien et le mélanger avec la parole. Dans le durement des années, d'une douleur profonde, ils sont quelque part en chemin restés. Nous voulons apporter assez de crainte à Dieu et sa parole et dire, Seigneur, tu as parlé, ta parole révélée, tes paroles révélées sont les promesses pour ces jours. Ta parole révélée sont les promesses pour ce jour qui, en tant que semence incorruptible, divine, est placée dans notre cœur. Et ne plus rien mélanger. Oui, ça, le frère tel et tel l'a dit, le frère tel et tel l'a enseigné. Non, non. Mais avoir un discernement clair et se séparer de tout, et je le dis avec esprit, encore une fois, de ce que Dieu n'a pas déterminé dans ce temps, pour ce temps, par le dernier message, n'a pas révélé dans ce temps, pour ce temps, par le dernier message. Tout ce qui a existé auparavant peut ici et là avoir été un peu, avoir eu en soi quelque chose de bien. Ça, on ne le discute pas. Mais ce n'était pas les paroles de la révélation de Dieu pour ce temps. Le temps d'aujourd'hui n'était pas encore arrivé pour ce message. Maintenant, le temps est là. Et Dieu revendique son peuple. Et la restauration de toutes choses n'a pas le droit de rester un message sur lequel nous discutons. Il faut que la restauration devienne une réalité et qu'elle rende témoignage d'elle-même. Et ça, nous le croyons de tout notre cœur. Notre Dieu, qui a donné la promesse, qui a donné les promesses, lui-même veille sur sa parole pour l'accomplir à nous. Est-ce que Marie devait s'efforcer? Est-ce que elle devait prier, supplier, pleurer, jeûner? Elle devait faire qu'une seule chose. Avoir été élue par Dieu pour cela, déterminée à recevoir la semence incorruptible de la parole de Dieu dans son cœur, l'écouter, la croire et dire, Seigneur, je suis la servante du Seigneur, qui me soit fait comme tu l'as dit. Et le Saint-Esprit vint sur elle, et la puissance du Très-Haut la couverte de son ombre, et la parole est devenue chair, et Christ naquit. C'est ainsi que ce sera à la fin avec l'Église épouse. Les âmes de Dieu qui sont déterminées à croire sa parole de la promesse divine pour ce temps, déterminées à la recevoir dans leur cœur et à dire qu'il me soit fait comme tu l'as dit, car je t'appartiens, Seigneur. Est-ce que ce n'est pas une pensée merveilleuse? Un trésor de Dieu, de ne plus s'efforcer, mais d'être attiré, d'être placé dans ces choses, dans le royaume de Dieu, dans le plan de Dieu, dans le programme de Dieu, dans ce temps. Est-ce que cela n'est pas la chose la plus grande que Dieu pourrait accorder à un homme sur terre? De le placer dans son plan, dans son programme, dans ses intentions, dans son royaume, de le placer et de se révéler à lui et de parler avec lui. Mais il y a une chose que vous pouvez me croire. le Seigneur savait que Marie allait accepter, recevoir, et qu'elle allait croire, et qu'elle allait, et qu'elle est élue et déterminée à cela. S'il y a de la rébellion, s'il y a de l'incrédulité, s'il y a une propre justice et tout le reste qui existe encore, alors ça veut dire que nous ne sommes pas encore arrivés au point où Dieu pourra faire avec nous ce qu'il s'est proposé de faire, tant qu'il y a quelque chose de propre encore. Mais Dieu travaille à cela, par sa grâce. Dieu travaille à cet objectif. Le temps est très avancé. L'annonce a été faite. La parole de la promesse divine est là. Bien-aimé cœur, est-ce que tu peux dire devant Dieu, je ne mélange plus rien. Je veux me détacher de tous les enseignements, de tous les credos, de toutes les traditions soit dites chrétiennes, me libérer complètement de cela. Mon cœur appartient à Dieu. Et parce qu'il appartient à Dieu, Dieu placera sa parole dans mon cœur. Et parce qu'il placera sa parole dans mon cœur, lui aussi, il viendra dans mon cœur sur cette parole qu'il a placée dans mon cœur avec son esprit. Et pour vivifier cette parole qu'il a placée dans mon cœur, et qui peut encore se louer de quelque chose, se glorifier de quelque chose? Personne. Celui qui veut se glorifier, qui se glorifie du Seigneur, de connaître le Seigneur et dire, mon Dieu, moi, homme misérable, toi, le Saint Dieu, j'ai été, moi, homme misérable, déterminé, choisi, élu à recevoir ta parole, à accepter ta parole, à accepter qui suis-je. Et déjà des larmes coulent d'un cœur courbé et d'un esprit humble. Que Dieu se soit penché vers nous et nous ait accordé la grâce de reconnaître le jour, le temps, l'heure, le messager et le message. Complètement à la fin, avant la moisson, il faut que la semence pure de la parole de la promesse déterminée pour ce temps et de la parole révélée soit semée dans des cœurs purs, purs, pour que le Saint-Esprit puisse la vivifier et la manifester dans toute sa réalité. Sinon, nous serons semblables à des vierges qui reçoivent la parole, acceptent la parole, mais sur lesquelles l'Esprit ne peut pas venir. Elles ne peuvent pas être remplies de Saint-Esprit. Et donc, à la fin, nous serons quand même des folles parce que nous n'avons pas, dans chaque pas, dans l'obéissance, nous ne sommes pas allés marchant avec Dieu en accord avec sa parole. Mais je voudrais quand même dire, comme Paul le dit dans Hébreux 6, verset 9, « Quoique nous parlions ainsi, bien-aimés, nous attendons pour ce qui vous concerne des choses meilleures et favorables au salut. » Nous n'avons pas suivi le Seigneur en vain durant toutes ces années. Tout le travail ne peut pas tomber dans du sable. Même si parfois cela semble être ainsi, Dieu le Seigneur a pour toute chose un temps et une heure. Tout ce qu'il a prononcé par la bouche, qu'il a promis par la bouche de certains prophètes et apôtres, il rendra ça réel. Il accomplira cela dans nos jours, dans ta vie et dans ma vie. Quoi qui arrive et parte, nous n'allons pas être dirigés par ce qui parfois se passe dans notre tête, dans nos pensées. Nous n'allons pas nous laisser diriger par cela, mais nous allons rester attachés à ce que Dieu, dans notre cœur, a placé. Et nous repassons et gardons cela dans nos cœurs. Toutes les paroles de la promesse de notre Dieu, nous les gardons dans notre cœur. Et nous dirons, même si mon âme et mon corps languissent, toi, ô Dieu, tu restes mon réconfort et ma confiance. Que le Dieu vivant puisse, par son esprit vivant, dans son Église rendue vivante, et puisse très bientôt rendre réelle sa parole vivante, par son esprit vivant dans cette Église vivante, des hommes qui, jusqu'à la fin, restent avec Dieu, marchent avec Dieu et sa parole. Ils sont ceux-là qui atteindront le but, pourront atteindre le but et ils verront le Seigneur, notre Dieu, qui d'une manière si merveilleuse a parlé et qui a envoyé son serviteur le prophète pour nous envoyer le dernier message pour que la dernière action de Dieu soit introduite. Tout cela, nous le voyons et tout cela, nous le reconnaissons. Car Dieu ne fait rien sans se révéler, sans révéler ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Et il a fait dans notre génération et cette révélation divine, nous l'avons reçu en tant qu'un héritage. Nous l'avons reçu. Cela nous a été transmis et nous nous réjouissons de tout notre cœur de cela. Et ainsi, notre foi n'est pas seulement une foi comme ça en général, ordinaire, mais c'est une foi qui mène au but, qui est dirigée selon la parole de Dieu, ancrée dans les promesses de Dieu pour ce temps. Et ça, vous pouvez me le croire. De croire ce qui s'est passé du temps de Moïse. Même les scribes et pharisiens, c'était facile pour eux de croire ce que Dieu avait fait du temps de Moïse. Ils ont même cru cela très bien. Mais de croire ce qui s'était passé autrefois dans leur temps. Alors, c'est de ça qu'il s'agissait à l'époque du temps des scribes. Quelques frères Branham dit, les hommes remercient Dieu toujours pour ce qu'il a fait. Et regardent à ce qu'il va encore faire. Et passent à côté sans reconnaître. Et même en méprisant ce qu'il fait dans leur présent. Et ça, c'est le problème. Mais le peuple de Dieu ne passe pas à côté de ce que Dieu fait maintenant. Pourquoi pas? Parce que Dieu, lui, n'est pas passé à côté de nous. Et si nous le disons avec l'humilité, en tous ceux à qui le Seigneur passe à côté, sans s'adresser à eux, sans leur parler, ce sont ceux-là qui vont passer à côté de tout ce que Dieu fera encore. C'est pour cette raison que nous voulons être reconnaissants de ce qu'il s'est adressé à nous, il nous a parlé et il nous a conduits dans sa parole. Le jour du Seigneur viendra. Comme un voleur de la nuit, la vengeance, la colère viendra. Mais avant que tout cela arrive, il faut que l'Église épouse soit appelée à sortir, soit préparée et achevée et perfectionnée. Il nous reste encore un, que très peu de temps. Et ce très peu de temps, là, nous voulons le racheter, l'utiliser à, dans la foi, nous approfondir dans ce que Dieu, dans ces jours, a à nous dire. Nous sommes reconnaissants de ce que nous avons pour ce temps reconnu le message divin et aussi le messager envoyé de Dieu. Ainsi, nous venons à la fin de cette réunion et nous pouvons dire, Seigneur, accueille-nous aujourd'hui. Nous voulons, comme autrefois, Marie, dans nous tenir à ta disposition avec un cœur pur pour que ta parole divine de la promesse puisse tomber dans notre cœur et que ton esprit puisse venir sur ta parole pour la reproduire, la porter à la vie, la vivifier. Nous croyons que nous avons compris Dieu dans ce qu'il veut nous dire aujourd'hui. Si c'est ainsi, alors dites au moins Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Levons-nous pour prier. Nous voulons courber nos têtes, fermer nos yeux et dans la prière recueillie, persévérer devant la face de Dieu. Peut-être qu'il y en a quelques-uns qui veulent, qui n'ont pas encore consacré leur vie à Dieu et qui n'ont pas encore reconnu l'importance des promesses divines, du message même divin pour ce temps. Nous prions volontiers pour vous, pour que le Seigneur, avec sa grâce, vienne sur vous dans, et parle à votre cœur. Et que vous aussi, vous puissiez comprendre. Ce ne sont pas les arguments dans la réflexion qui nous mènent au but. Mais la foi dans le cœur à la parole de Dieu que nous avons entendu, écouté et reçu. Pendant que nous sommes ainsi rassemblés dans la présence du Seigneur, je voudrais demander, au cas où quelqu'un souhaiterait la prière, de lever les mains et de les rabaisser. Dieu les voit. Merci, 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 merci. Que Dieu vous bénisse. En partie, ce sont de nouvelles personnes, des visiteurs, des amis. Dans une réunion, vous ne pouvez pas avoir une vue d'ensemble, recevoir une vue d'ensemble, surtout et même vous faire un jugement. Chaque réunion, chaque culte est différent. Aujourd'hui, le Seigneur nous a invités à recevoir sa parole en tant que semence, pour, nous a invité, nous a conduit à insister sur la semence incorruptible de sa parole que nous devons recevoir, qui contient les promesses pour ce temps. Toutes les autres réunions sont aussi à caractère évangélique et aussi prophétique et d'enseignement, mais malgré tout, le Seigneur vous a appelé et je suis très reconnaissant que vous ayez levé vos mains. Que Dieu, quoique ce n'était pas une prédication évangélique qui a été tenue, malgré tout, il attire les hommes. Il travaille dans leur cœur. C'est un signe qu'il est présent et qu'il confirme sa parole et qu'elle ne revient pas sans effet à lui, mais qu'elle produit l'effet pour lequel il l'a envoyé. Oh, loué et exalté soit le nom du Seigneur. Prions. Père céleste, je te remercie, toi Dieu fidèle, pour ce culte, pour cette réunion, pour ta sainte parole. Oui, pour cette réalité divine que dans ces jours, nous t'avons écouté nous parler et encore plus que ça, de ce que nous avons compris, ta parole. Ô Dieu, je te remercie de la profondeur de mon cœur, de mon âme, de nous tous qui sont que poussière et cendre. Tu nous as fait grâce, tu nous as vus et par amour, tu nous as attirés à toi. Seigneur fidèle, bénis tous ceux qui ont levé leurs mains et qui veulent placer leur vie sur ton autel pour te servir, pour te suivre, pour te croire, pour te faire confiance. Seigneur, que cela leur réussisse et que tu puisses venir à leur aide d'une manière puissante. Qu'ils puissent maintenant, là où ils se trouvent, ressentir que la main de Dieu vient sur eux et que Dieu, qui les a conduits ici aujourd'hui, parce qu'il veut les sauver et leur faire grâce. Parce qu'il voulait les sauver et leur faire grâce. Seigneur, je te remercie qu'ils puissent le reconnaître. Tu l'as fait. Ton sang couvre leurs fautes et nos fautes et nous purifie. Seigneur fidèle. Ô Dieu, et que tous, Seigneur, plus le temps passe, nous puissions tous reconnaître de quoi il s'agit. Passe au crible de manière minutieuse et que le blé reste devant ta face. Alléluia. Je te remercie de ce que ce message, en tant que le dernier, tu l'as laissé comme une trompette retentir dans le monde. Je te remercie pour ce grand privilège de voir des hommes, des foules que tu as appelées à sortir par amour, que tu as, à qui tu as fait grâce et que tu as appelé à sortir et que tu t'es révélé à eux comme à nous. Seigneur, tous ceux qui sont dans des difficultés, tous ceux qui ont été influencés, tous ceux qui sont tombés. Seigneur, tu connais leur déchirure intérieure de leur cœur. Ô Dieu, que tu puisses intervenir avec ta droite puissante et accorder à ton peuple la victoire de Golgotha. Alléluia. Loué et honneur, gloire et adoration te soit apporté, Seigneur fidèle. En toi, chaque prophétie s'est accomplie. Aussi, celle-là, je ne permettrai pas que mon bien-aimé voie la corruption et que son âme reste au séjour des morts. Tu es ressuscité, car la parole l'avait prédite. Alléluia. Oh, Dieu au ciel, la même chose aura lieu avec toute l'Église du Dieu vivant. Et avec cela, ça veut dire, on veut parler de l'Église des premiers-nés. Alléluia. Alléluia. Seigneur, comment toi, le Rédempteur, chaque parole s'est accomplie, est devenue une réalité. Jusqu'à la réception dans la gloire, jusqu'à la montée au ciel. C'est ainsi que chaque promesse et chaque parole s'accomplira dans l'église épouse. S'accomplira dans l'église épouse jusqu'à son enlèvement et la rencontre dans les airs et le festin des noces de l'agneau. Alléluia! Seigneur, nous te remercions, nous te louons, nous t'adorons, car tu es celui qui a parlé avec nous. Et nous te remercions de ce que nous avons écouté ta parole et que nous avons la grâce de la croire et que la puissance du Saint-Esprit vient sur nous. Alléluia! Alléluia! Seigneur, nous te louons et nous te remercions dans le Saint-Nom de Jésus. Amen.